Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal, suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la voix de l'Indonésie, de la Radio République Indonésie. Voici le journal d'aujourd'hui. Idéalement, l'Indonésie dispose de 47 jardins botaniques. Le jardin botanique acte de résoudre du problème d'eau. L'Indonésie va participer dans la conférence maritime des Nations Unies. Les Philippines sont satisfaites le bateau de guerre produit par l'Indonésie. Le vice-président a demandé à la Croix-Rouge indonésienne et prête à aider les autres pays. Et voici le journal complet. L'Indonésie est un pays étant riche en biodiversité dans de nombreuses régions. La variété des espèces végétales y sont conservées au jardin botanique dans certaines régions, si bien qu'on nécessite de construire de nouveaux jardins botaniques. Comme affirmé le chef du Centre de conservation des plantes du jardin botanique, l'Institut indonésien des sciences ou l'IPI, Didik Widiatmoko à la voix de l'Indonésie en marge du séminaire des jardins botaniques et la gestion des ressources d'eau à la maison de conservation de l'IPI Bogor, Java West le mardi.
Idealnya mas, dan kita optimis bisa, karena bisa, kita tuh 47 minimal ya.
Idealement, et on est optimiste d'être capable d'avoir 47, car l'Indonésie a 47 écorégions. Alors que la diversité de l'Indonésie étant représentée par les 47 écorégions sont représentées, on nécessite 47 jardins botaniques à l'ensemble des 47 écorégions. L'écorégion est une région géographique qui a des caractéristiques communes des plantes, de la faune, du sol et du climat. Donc, si nous faisons un jardin botanique dans la région, la vie des plantes a une grande chance de succès. C'est la stratégie. Donc, il est 47 en minimum. En outre, Didik Widiatmoko souhaite que dans 5 à 10 ans, l'IPI puisse gérer le développement des jardins botaniques en Indonésie orientale. Didik a également demandé aux autorités locales de collaborer avec l'IPI afin de réaliser le développement des jardins botaniques à la région qui n'a pas encore le jardin botanique, si bien qu'il puisse être bénéfique pour la communauté environnante. Un certain nombre de régions en Indonésie est encore menacée par la pénurie d'eau, en particulier dans la région où les gens ont un accès limité à l'eau, comme les petites îles ou les zones frontalières. Le chef de l'Institut indonésien des sciences, ou l'IPI, Iskandar Zulkarnain, a déclaré aux médias lors d'une conférence de presse en marche du séminaire des jardins botaniques et la gestion des ressources d'eau à la maison des conservations de l'IPI à Bogor, Java West, le mardi. Selon Iskandar, la construction du jardin botanique peut être une solution pour résoudre les problèmes de l'eau.
Di sini sebetulnya peran dari kebun raya itu sebagai wahana untuk konservasi sumber daya air.
En fait, le rôle des jardins botaniques en tant que source pour la conservation des ressources d'eau est automatiquement intégré. Alors, combien peut être pris en charge par les jardins botaniques aux besoins en eau de la communauté, nous pouvons voir combien réellement les réserves existantes dans le souterrain dans la région. Il pourrait alors être calculé et ensuite converti à la façon dont les besoins en eau des personnes par famille, par personne, il peut être simulé. Mais le fait important est que le jardin botanique sera en mesure de protéger la communauté là pour les pénuries et des sécheresses d'eau. Iskandar Zulkarnain a également dit une solution pour remédier à la pénurie d'eau doit également être associée à une gestion des ressources en eau enterrée. Selon lui, ces dernières années, l'IPI a réussi à appliquer le concept de la sécurité de l'eau dans une région où les petites îles qui n'ont pas d'accès à la disponibilité de l'eau propre avec une variété d'innovations technologiques. Le concept est appelé une île en plan UNO. L'Indonésie va participer dans la conférence maritime des Nations Unies du 5 au 9 juin 2017 à New York, les États-Unis. Une telle conférence va discuter sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable numéro 14 sur la vie sous la mer. Les questions abordées sont des déchets plastiques dans l'océan, la pêche illégale, les subventions à la pêche et la conservation marine. Adjoint de la division coordinatrice pour la souveraineté maritime, ministère coordinateur des affaires maritimes Arif Hafaz Ugroseno à Jakarta, lundi le 8 mai, a déclaré que les délégués présentés sont le ministre de coordination pour le maritime, Luhut Binsar Panjaitan, et la ministre des affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujiastuti. Le ministre Luhut Binsar Panjaitan a été demandé par l'ONU pour devenir président sur le partenariat de dialogue lié à la pollution marine. En outre, l'Indonésie s'engagerait volontairement aussi de garder le monde marin.
Ya diminta juga oleh PBB untuk memasukkan daftar voluntary commitment. Jadi commitment voluntary, commitment sukarela Indonesia.
L'Indonésie est demandée aussi par les Nations Unies pour soumettre la liste de l'engagement volontaire de l'Indonésie dans le monde marin. L'Indonésie a dit qu'il réduira volontairement les déchets en plastique de 70% jusqu'en 2025. L'Indonésie maintiendra une base volontaire et étendra notre zone maritime. Arif Hafaz Ugroseno a expliqué « L'un des engagements volontaires de l'Indonésie est d'achever la destruction du corail à Raja Ampat, Papouasie, par MV Caledonian Sky en mars. » Cela signifie que l'Indonésie a porté la question au niveau des Nations Unies. Arif Hafaz Ugroseno a expliqué que son équipe ainsi que l'assurance du MV Caledonian Sky discutent encore l'interprétation des pertes économiques. Les Philippines sont satisfaites d'un navire de guerre produit par PT PAL Indonesia après que leur deuxième navire commandé arrivait au port de Manille. C'est ce qu'a affirmé le commandant du groupe de travail de l'acquisition du bateau de SSF des Philippines, Richard N. Gonzaga, dans le port de Manille. Il a dit la deuxième exportation et même que le premier voyage, il est sûr. Gonzaga a admis qu'en général, le fonctionnement de la machine du bateau était très bon et décent. Le voyage en mer de Surabaya à Manille est atteint en traversant la mer de Java et le détroit de Makassar, puis la mer de Sulawesi et la mer de Chine, avant d'amarrer dans le port de Manille. La deuxième exportation a été témoignée par le ministre de la Défense, Riamizard Riatudu, à Kwai, Semarang, Ujung Surabaya, l'est de Java. Les équipages de la marine philippine qui suivent ce voyage sont 115 personnes, plus 112 équipages de PT PAL Indonésie, et 22 hommes de navire et 5 traiteurs. BRP Davao del Sur LD602 est le deuxième navire de guerre commandé par les Philippines, tandis que le premier ordre nommé Tarlac et est arrivé à Manille le 13 mai 2016. Le vice-président Yusuf Kalla a demandé à la Croix-Rouge indonésienne ou PMI d'être prête à aider les autres pays touchés par des catastrophes naturelles et humanitaires. C'est ce qu'a affirmé Yusuf Kalla dans le bureau de PMI Jakarta. Le vice-président est présent en tant que président général de PMI Central pour nommer 17 membres du conseil d'honneur et les administrateurs de PMI Jakarta pour la période 2017-2022. À cette occasion, le vice-président a également rappelé aux bénévoles de PMI pour tenir fermement les 7 principes de base de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'Indonésie, à savoir effectuer la tâche et l'humanité sans distinction de religion, d'ethnie, de la race et ainsi de suite, et l'indépendance sans dépendre du gouvernement ou d'autres partis est universelle. Le président du conseil honoraire de PMI Jakarta élu et la fille d'ancien président Suharto, Titik Suharto et Muhammad Ali Reza, le chef d'organisateur de PMI Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui. Le second tour de l'élection présidentielle française s'est terminé. Le vainqueur est Emmanuel Macron. On attend l'inauguration. Le 14 mai, Macron sera le plus jeune président en France, en ayant 39 ans, remplaçant son mentor tout en actif au sein du Parti socialiste, François Hollande. Probablement, pas beaucoup savent que François Hollande était en colère parce que Macron a quitté le Parti socialiste et a établi un mouvement indépendant, En Marche, un certain temps avant l'élection présidentielle. Enfin, Hollande soutient le mouvement de Macron après le premier tour des élections. Le candidat socialiste Benoît Hamon n'a pas fait les deux grands. Hollande a même appelé les Français à ne pas choisir Marine Le Pen et ne transmet des sons qu'à Emmanuel Macron. L'élection présidentielle française, cette fois-ci, est assez difficile, bataille politique en France. Si Marine Le Pen a gagné, c'est clair que la direction politique serait anti-Union européenne. En fait, il n'est pas impossible, il y a un Frexit, alias la sortie française, qui fait référence à la sortie britannique ou Brexit, à savoir la sortie de l'Union européenne. Le sentiment national construit par le parti du Front National, bien qu'il ne marque pas le début de Marine Le Pen d'être la première femme présidente de la France, a fait la montée du parti dans les rangs du parti à laquelle il faut compter. Marine Le Pen était capable d'atteindre 34% des voix dans la dernière élection. Macron se remporte l'élection avec 66% des voix. En gagnant l'élection, exige Macron d'unir les Français divisés. Son adversaire à l'élection, Marine Le Pen, a été déterminé à aller de l'avant dans les élections législatives le juin prochain. De cette élection, on peut voir si Emmanuel Macron est devenu président avec le soutien d'une majorité ou non. Si oui, une tâche difficile attend Macron, comme la mise en place d'emplois ainsi que l'amélioration de l'économie encore atteinte. Mais sinon, la tâche sera encore plus difficile parce que ses politiques seront certainement intercepté par Marine Le Pen étant l'opposition. La victoire de Macron, bien que colorée par la rumeur que les sites de campagne du parti soient piratés, comme le piratage des sites démocrates lorsque l'élection présidentielle des États-Unis, est saluée par ses partisans, ainsi que l'Union européenne. La Russie, un pays soupçonné du piratage du site, accueille également cette victoire de Macron par contact téléphonique de Vladimir Poutine au Macron. Le président Macron devrait mettre en œuvre des politiques nationales qui peuvent restaurer l'économie française. Le cadre de coopération dans l'Union européenne peut pousser les Français hors de la crise. La forte France rendra l'Union européenne plus forte. Cela signifie que la coopération avec d'autres régions, y compris l'ASEAN et l'Indonésie, sera également mieux. C'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serge Moulantin, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 10 mai 1940. L'Allemagne a envahi les Pays-Bas, la Belgique et la France qui a utilisé les tactiques de Blitzkrieg. Blitzkrieg est une stratégie militaire où les forces allemandes ont attaqué rapidement. L'armée allemande ou Wehrmacht a utilisé la combinaison et la coordination des forces de l'air, la mer et la terre. Le concept de la stratégie de Blitzkrieg en général jusqu'à présent est encore appliqué par les militaires. L'autre information est sur la fondation du Polisario le 10 mai 1973. Le Front Polisario est une organisation de libération de la région du Sahara occidental dans le nord de l'Afrique. Cette organisation a pour but de lutter pour l'indépendance de la région du Sahara occidental des colonies espagnoles. Le soutien public pour l'organisation a fait les troupes espagnoles se retirer du Sahara occidental en 1975. La même année, l'Espagne a fait le transfert de pouvoir du Sahara occidental au Maroc et en Mauritanie. Mais en raison d'un certain nombre de pressions externes, la Mauritanie a dit qu'il ne voulait pas accepter le transfert. Le Maroc, qui a accepté le transfert de pouvoir de l'Espagne, a attaqué directement le Sahara occidental. L'attaque a échoué en raison de la résistance du Front Polisario soutenu par le peuple. En 1991, les Nations Unies ont pour arbitre le conflit entre le Maroc et le Front Polisario. Et les deux parties ont convenu de faire le référendum pour résoudre le problème du Sahara occidental. Mais le référendum n'a pas eu lieu parce que les deux parties étaient en désaccord fortement sur les conditions des participants du référendum. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement. 90 membres de la famille Al-Hakim ont été arrêtés le 10 mai 1983. Le régime Ba'ath irakien dirigé par le dictateur Saddam Hussein a arrêté 125 familles de l'ayatollah Al-Hakim, l'ulema le plus influent de l'Irak de son époque. 18 d'entre eux ont été condamnés à mort. Mais la famille Al-Hakim, qui pendant des décennies a été connue comme une famille religieuse et les combattants, portent toujours leader charismatique très respecté par les Irakiens. Cette situation rend le régime Ba'ath inquiète et menace son pouvoir. À cette fin, Saddam fait toujours la répression contre la famille Al-Hakim par de terroriser, de détenir et même tuer. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs et auditrices, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre « Le ministère de l'Environnement et des Forêts apprécie la gestion des forêts protégées de Sentadjo ». L'équipe du ministère de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie le week-end dernier a visité des zones forestières protégées de Sentadjo en résidence de Kuantan Singingi, la province de Riau. L'objectif est d'inviter les gens à planter des arbres qui sont bénéfiques pour eux, si bien que cela augmente la valeur économique soutenant leur revenu. À cette occasion, le directeur de l'unité de gestion forestière protégée du ministère de l'Environnement et des Forêts, Herudoyo Ciptono, dans le golfe de Kuantan, a exprimé sa fierté pour la gestion des forêts protégées Sentadjo, si bien qu'elles deviennent une attraction touristique locale. Il a dit que l'agence qui gère la forêt était optimale, mais il doit être encore amélioré et ne détruit pas l'ordre existant. parce que les avantages des soins et de la protection sont très élevés pour la communauté. Les organismes connexes sont également tenus de continuer à planter d'autres arbres protégés bénéfiques en ne pas dérangeant les installations existantes, de sorte que tout fonctionne de manière optimale comme la fonction de ces forêts. En même temps, il y a une valeur économique pour les groupes d'agriculteurs qui jouent dedans. Selon Herudoyo, dans les zones forestières protégées, on peut également planter et ne pas déranger d'autres plantes dans les forêts telles que le rotang de Jernang, le rotang, tempayang, banane et jengkol. Donc la gestion pourrait être faite par des groupes d'agriculteurs en collaboration avec le gouvernement de village et l'unité de gestion des forêts protégées. Le ministère de l'Environnement et des Forêts aidera le financement pour le développement de l'utilisation des plantes productives dans les zones forestières protégées dans le district de Kuantan Singingi, basé sur la proposition de l'unité de gestion forestière protégée et à travers le processus de vérification. Selon Herudoyo, si elles sont gérées correctement, cela augmentera les revenus des groupes d'agriculteurs. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir.
L'Indonésie est un pays étant riche en biodiversité dans de nombreuses régions. La variété des espèces végétales y sont conservées au jardin botanique dans certaines régions, si bien qu'on nécessite de construire de nouveaux jardins botaniques. Comme affirmé le chef du Centre de conservation des plantes du jardin botanique, l'Institut indonésien des sciences ou l'IPI, Didik Widiatmoko, à la voix de l'Indonésie, en marge du séminaire des jardins botaniques et la gestion des ressources d'eau, à la maison de conservation de l'IPI, Bogor, Java West, le mardi.
Idealnya mas, dan kita optimis bisa, karena bisa, kita tuh 47 minimal ya.
Idealement, et on est optimiste d'être capable d'avoir 47, car l'Indonésie a 47 écorégions. Alors que la diversité de l'Indonésie étant représentée par les 47 écorégions sont représentées, on nécessite 47 jardins botaniques à l'ensemble des 47 écorégions. L'écorégion est une région géographique qui a des caractéristiques communes des plantes, de la faune, du sol et du climat. Donc, si nous faisons un jardin botanique dans la région, la vie des plantes a une grande chance de succès. C'est la stratégie. Donc, il est 47 en minimum. En outre, Didik Widiatmoko souhaite que dans 5 à 10 ans, l'IPI puisse gérer le développement des jardins botaniques en Indonésie orientale. Didik a également demandé aux autorités locales de collaborer avec l'IPI afin de réaliser le développement des jardins botaniques à la région qui n'a pas encore le jardin botanique, si bien qu'il puisse être bénéfique pour la communauté environnante. Un certain nombre de régions en Indonésie est encore menacé par la pénurie d'eau, en particulier dans la région où les gens ont un accès limité à l'eau, comme les petites îles ou les zones frontalières. Le chef de l'Institut indonésien des sciences, ou l'IPI, Iskandar Zulkarnain, a déclaré aux médias lors d'une conférence de presse en marge du séminaire des jardins botaniques et la gestion des ressources d'eau à la maison des conservations de l'IPI à Bogor, Java West, le mardi. Selon Iskandar, la construction du jardin botanique peut être une solution pour résoudre les problèmes de l'eau.
Di sini sebetulnya peran dari kebun raya itu sebagai wahana untuk konservasi sumber daya air.
En fait, le rôle des jardins botaniques en tant que source pour la conservation des ressources d'eau est automatiquement intégré. Alors, combien peut être pris en charge par les jardins botaniques aux besoins en eau de la communauté, nous pouvons voir combien réellement les réserves existantes dans le souterrain dans la région. Il pourrait alors être calculé et ensuite converti à la façon dont les besoins en eau des personnes par famille, par personne, il peut être simulé. Mais le fait important est que le jardin botanique sera en mesure de protéger la communauté là pour les pénuries et des sécheresses d'eau. Iskandar Zulkarnain a également dit une solution pour remédier à la pénurie d'eau doit également être associée à une gestion des ressources en eau enterrée. Selon lui, ces dernières années, l'IPI a réussi à appliquer le concept de la sécurité de l'eau dans une région où les petites îles qui n'ont pas d'accès à la disponibilité de l'eau propre avec une variété d'innovations technologiques. Le concept est appelé ONIL, en plan UNO. L'Indonésie va participer dans la conférence maritime des Nations Unies du 5 au 9 juin 2017 à New York, les États-Unis. Une telle conférence va discuter sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable numéro 14 sur la vie sous la mer. Les questions abordées sont des déchets plastiques dans l'océan, la pêche illégale, les subventions à la pêche et la conservation marine. Adjoint de la division coordinatrice pour la souveraineté maritime, ministère coordinateur des affaires maritimes Arif Hafaz Ugroseno à Jakarta, lundi le 8 mai, a déclaré que les délégués présentés sont le ministre de coordination pour le maritime, Luhut Binsar Panjaitan, et la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujiastuti. Le ministre Luhut Binsar Panjaitan a été demandé par l'ONU pour devenir président sur le partenariat de dialogue lié à la pollution marine. En outre, l'Indonésie s'engagerait volontairement aussi de garder le monde marin.
Dia diminta juga oleh PBB untuk memasukkan daftar voluntary commitment. Jadi commitment voluntary, commitment sukarela Indonesia.
L'Indonésie est demandée aussi par les Nations Unies pour soumettre la liste de l'engagement volontaire de l'Indonésie dans le monde marin. L'Indonésie a dit qu'il réduira volontairement les déchets en plastique de 70% jusqu'en 2025. L'Indonésie maintiendra une base volontaire et étendra notre zone maritime. Arif Hafaz Ugroseno a expliqué « L'un des engagements volontaires de l'Indonésie est d'achever la destruction du corail à Raja Ampat, Papouasie, par MV Caledonian Sky en mars. Cela signifie que l'Indonésie a porté la question au niveau des Nations Unies. » Arif Hafaz Ugroseno a expliqué que son équipe ainsi que l'assurance du MV Caledonian Sky discute encore l'interprétation des pertes économiques. Les Philippines sont satisfaites d'un navire de guerre produit par PT PAL Indonesia, après que leur deuxième navire commandé arrivait au port de Manille. C'est ce qu'a affirmé le commandant du groupe de travail de l'acquisition du bateau de SSF des Philippines, Richard N. Gonzaga, dans le port de Manille. Il a dit la deuxième exportation et même que le premier voyage, il est sûr. Gonzaga a admis qu'en général, le fonctionnement de la machine du bateau était très bon et décent. Le voyage en mer de Surabaya à Manille est atteint en traversant la mer de Java et le détroit de Makassar, puis la mer de Sulawesi et la mer de Chine avant de démarrer dans le port de Manille. La deuxième exportation a été témoignée par le ministre de la Défense Riamizard Riatudu à Kuai, Semarang, Ujung Surabaya, l'est de Java. Les équipages de la marine philippine qui suivent ce voyage sont 115 personnes, plus 112 équipages de PT PAL Indonésie et 22 hommes de navire et 5 traiteurs. BRP Davao del Sur LD602 est le deuxième navire de guerre commandé par les Philippines, tandis que le premier ordre nommé Tarlac est arrivé à Manille le 13 mai 2016. Le vice-président Yusuf Kalla a demandé à la Croix-Rouge indonésienne ou PMI d'être prête à aider les autres pays touchés par des catastrophes naturelles et humanitaires. C'est ce qu'a affirmé Yusuf Kalla dans le bureau de PMI Jakarta. Le vice-président est présent en tant que président général de PMI Central pour nommer 17 membres du conseil d'honneur et les administrateurs de PMI Jakarta pour la période 2017-2022. À cette occasion, le vice-président a également rappelé aux bénévoles de PMI pour tenir fermement les 7 principes de base de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'Indonésie, à savoir effectuer la tâche et l'humanité sans distinction de religion, d'ethnie, de la race et ainsi de suite, et l'indépendance sans dépendre du gouvernement ou d'autres partis est universelle. Le président du conseil honoraire de PMI Jakarta élu et la fille d'ancien président Suharto, Titik Suharto et Muhammad Ali Reza, le chef d'organisateur de PMI Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci à vous d'écouter notre antenne de La Voix d'Indonésie. Dans l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui, nous allons vous inviter à visiter la montagne de Gerote dans la province d'Aceh. Alors, restez avec nous sur La Voix d'Indonésie, le service international de la RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voi.co.id. La province d'Aceh, qui est située sur la pointe du nord de l'île de Sumatra, était détruite à cause du tsunami de 2004. Bien que de nombreuses régions aient été détruites, les gens peuvent encore profiter de la beauté naturelle de la province qui est surnommée la vestibule de la Mecque. L'un des beaux paysages dont vous pourrez profiter est la montagne Gerote. La zone montagneuse est le meilleur endroit pour voir le coucher du soleil dans la province d'Aceh. Gerote est une montagne qui est située à la frontière des régions d'Aceh Jaya et d'Aceh Besar, à environ une heure et demie de Banda Aceh, la capitale de la province d'Aceh. La montagne est traversée par la route nationale du sud-ouest de la province d'Aceh. Gerote fait partie également de la forêt d'Ulumasen qui a été inaugurée comme l'une des forêts qui fournit de l'oxygène au monde. La montagne possède un ravin très profond et borde directement le littoral de l'océan Indien. La caractéristique de Gerote est un monument pointu comme un signe que les visiteurs sont au plus haut de l'ascension de la montagne. De cet endroit, tout le monde peut admirer la belle nature étendue à leurs pieds. Car il devient la voie qu'emprunt la route nationale vers la région de l'ouest et du sud d'Aceh, la montagne Gerote devient souvent une halte pour les visiteurs qui font un long voyage. Il y a aussi des gens qui viennent délibérément à la montagne pour profiter de la vue sur l'océan à partir du bord de la falaise. Ils apprécient le panorama tout en buvant le célèbre café d'Aceh. Le long de la région montagneuse, il y a de nombreux étals qui offrent le café typique d'Aceh. En plus de vendre du café, les étals vendent aussi de la nourriture bon marché. En arrivant au sommet du mont Gerote, vous verrez le vaste océan et les petites îles inhabitées. Du sommet de la montagne, vous verrez aussi la ville de Lamno, une petite ville dans laquelle beaucoup de filles sont d'origine portugaise et ont les yeux bleus et les cheveux blonds. Selon l'histoire, la ville de Lamno a été occupée par les Portugais. Le sommet du mont Gerote est aussi l'un des endroits préférés des photographes parce que la vue depuis son sommet est belle quand le soleil se couche. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, où que vous soyez. Nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien, qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est Pergi ke Candi Borobudur. Je répète, Pergi ke Candi Borobudur, ou en français, Aller au temple Borobudur. Restez toujours avec nous sur www.voi.co.id. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois. Candi Borobudur. Candi Borobudur. En français, le temple Borobudur. Pergi ke mana? Pergi ke mana? En français, allez où? Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Tahu. Tahu. En français, connaître. Di mana letaknya? Di mana letaknya? En français, où se trouve-t-il? Jauh. Jauh. En français, loin. Pusat kota Yogyakarta. Pusat kota Yogyakarta. En français, centre-ville de Yogyakarta. Terletak. Terletak. En français, se trouver. Barat daya. Barat daya. En français, le sud-ouest. Barat laut. Barat laut. En français, le nord-ouest. Tepatnya. Tepatnya. En français, précisément ou spécifiquement. Candi Bouddha. Candi Bouddha. En français, le temple bouddhiste. Candi Hindu. Candi Hindu. En français, le temple hindou. Paling besar di dunia. Paling besar di dunia. En français, le plus grand du monde. Didirikan. Didirikan. En français, être établi. Tahun Masehi. Tahun Masehi. En français, après Jésus-Christ. Dynasty Sailendra. Dynasty Sailendra. En français, la dynastie Sailendra. Tempat pemujaan. Tempat pemujaan. En français, la place de prière. Patung Buddha. Patung Buddha. En français, la statue bouddhiste. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. Kapan. Kapan. En français, quand. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. En français, 9h du matin. Berangkat. Berangkat. En français, partir. Maintenant, je vais mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois par phrase. Cette conversation est entre Agnes A et Krishna B. A. Kita pergi ke mana hari ini, Tuan Krishna? Kita pergi ke mana hari ini, Tuan Krishna? En français, on va aller où aujourd'hui, Monsieur Krishna? B. Ke Candi Borobudur. Ke Candi Borobudur. En français, au temple Borobudur. Apakah Anda sudah tahu tentang Candi Borobudur? Apakah Anda sudah tahu tentang Candi Borobudur? En français, vous connaissez ce temple? A. Tidak, belum pernah. Ngomong-ngomong, di mana letaknya? Apakah jauh dari pusat kota Yogyakarta? Tidak, belum pernah. En français? Non, je ne le connais pas. Ngomong-ngomong, di mana letaknya? En français? Où se trouve-t-il? Apakah jauh dari pusat kota Yogyakarta? Est-ce qu'il est loin du centre-ville de Yogyakarta? B. Borobudur terletak sekitar 100 km barat daya Semarang dan 40 km barat laut Yogyakarta, Jawa Tengah. Borobudur terletak sekitar 100 km barat daya Semarang dan 40 km barat laut Yogyakarta, Jawa Tengah. En français, Borobudur se trouve à environ 100 km au sud-ouest de Semarang et 40 km au nord-ouest de Yogyakarta, Java Central. A. Borobudur itu candi Hindu atau Buddha? Borobudur itu candi Hindu atau Buddha? En français, est-ce que c'est un temple bouddhiste ou hindou? B. Borobudur adalah candi Buddha paling besar di dunia. Borobudur adalah candi Buddha paling besar di dunia. En français, Borobudur est le temple bouddhiste le plus grand du monde. A. Kapan candi Borobudur didirikan? Kapan candi Borobudur didirikan? En français, quand a-t-il été établi? B. Candi ini dibangun pada tahun 750 Masehi hingga 850 Masehi. Candi ini dibangun pada tahun 750 Masehi hingga 850 Masehi. En français, ce temple a été établi en 750 jusqu'en 850 après Jésus-Christ. A. Siapa yang membangun candi ini? Siapa yang membangun candi ini? En français, qui a établi ce temple? B. Candi ini dibangun oleh dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Candi ini dibangun oleh dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. En français, ce temple a été établi par la dynastie Sailendra et la dynastie Sanjaya. Borobudur merupakan tempat pemujaan dan banyak patung Buddha. Borobudur merupakan tempat pemujaan dan banyak patung Buddha. En français, Borobudur était la place de prière et il y existe beaucoup de statues bouddhistes. A. Baiklah, kapan kita akan berangkat ke sana? Baiklah, kapan kita akan berangkat ke sana? En français, d'accord. Quand est-ce que nous y partons? B. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. En français, à 9h du matin. Voilà cette édition du programme Apprendre l'Indonésien. Espérons que cette édition soit utile pour ceux parmi vous qui veulent savoir plus la langue indonésienne. Merci à tous et au revoir.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci à écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop de l'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop, Nika Ardila. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Nika Ardila intitulée « Étoile de vie ». Bonne écoute. Serviteur, vous venez d'écouter la chanson de Nick Ardila intitulée « Étoile de vie » qui est une chanson du 10e album. Cette chanson raconte l'échec de l'amour, mais il était sûr, un jour, le bonheur qui rêve viendra. Cette chanson est composée par Dedi Dorès. Les chansons chantées par Nick Ardila ont bien accepté par les amateurs de musique indonésienne. L'album Étoile de vie a été bien vendu, à savoir 2 millions de copies. Ce succès a conduit Nick de gagner le prix de BASF comme meilleure vente d'album en 1990 pour la chanson Étoile de vie. L'année précédente, le premier album de Nick, intitulé Un faisceau de lumière, vendu à plus de 500 000 copies. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson de Nick Ardila intitulée Un faisceau de lumière. Bonne écoute.
Adakah kasih suci?
restez toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.